Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le jeudi 23 décembre 2021. Christophe Mallet et Jean-Noël Lucas pour vous accompagner au cours de 7h, donc en français sur Radio SBS. Au programme, nous parlerons d'économie comme chaque jeudi et puis nous ferons un détour avec une école de cuisine qui fait un carton à travers le monde. Cette école de cuisine est maintenant basée en Australie, mais pour l'instant, il est l'heure de passer au journal. Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Nouveau record d'infection en Nouvelle-Galles du Sud et les masques qui font le retour obligatoirement à l'intérieur dans le Victoria. On développera tout ça dans ce journal. Et l'OMS qui tire le signal d'alarme sur la vaccination mondiale. Alors, je vous le disais en titre, on va faire un point sur le Covid à travers l'Australie pour débuter ce journal. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 5715 nouveaux cas de Covid-19 acquis localement, avec un décès également. Le premier de l'État, Dominique Perrottet, devrait annoncer le retour des enregistrements obligatoires par code de QR, car les cliniques de tests continuent d'être débordées dans l'État. Le gouvernement de l'État a également fait le point sur pour fournir des tests antigéniques rapides gratuits par la poste à tout le monde. Mais il semble que M. Perrottet n'ira pas jusqu'à réintroduire le mandat de masque à l'intérieur, malgré le fait qu'en Nouvelle-Galles du Sud et New South Wales Health demande aux gens de le porter le plus souvent possible, surtout donc à l'intérieur. Pendant ce temps-là, le Victoria a enregistré 2005 nouveaux cas de Covid et 10 décès. Les masques seront obligatoires à l'intérieur dans l'État à partir de 23h59 ce soir. Pour les personnes âgées de 8 ans et plus, la règle s'applique à tous les environnements intérieurs à l'exception des maisons privées. Le Queensland a enregistré 369 nouveaux cas de Covid-19 acquis localement, avec plus de 33 000 tests faits donc à travers l'État. La première donc de l'État, Anastasia Palaszczuk, s'inquiète des faibles taux de vaccination, notamment sur la Gold Coast. Elle dit qu'elle s'attend à voir un nombre de cas augmenter au cours du nouvel an. On l'écoute.
So today we have 369 new cases. These cases are going to escalate, and this virus is across Queensland. It is now in the Banana Shire, Brisbane, Bundaberg, Cairns, Central Queensland, Gold Coast, Gympie, Ipswich, Logan, Maranoa, Mareeba, Moreton Bay, Noosa, Redland, Southern Downs, Sunshine Coast, Toowoomba, Townsville and the Whitsundays.
Voilà donc Anastasia Palaszczuk pour le Queensland. De nouvelles recherches semblent confirmer que le variant Omicron provoque moins d'hospitalisations graves que les autres variants du Covid-19. L'étude a été menée par l'Imperial College de Londres. Le professeur Peter Openshaw du département de médecine expérimentale donc de l'Imperial College dit que beaucoup de choses sont encore inconnues sur ce variant Omicron. Et il a déclaré à Sky News que bien que la recherche montre un pourcentage plus faible de personnes hospitalisées, Omicron ne doit surtout tout pas être sous-estimé. On l'écoute.
And the study that has been reported from Imperial, from my esteemed colleagues, does show a reduction in the number of people who attend hospital and an even better reduction in the number who need to stay in. I think that gives us hope, but it certainly doesn't mean that there won't be a very large number of people getting seriously ill.
Voilà donc pour Omicron et cette étude donc d'Imperial College. L'OMS tire une nouvelle fois le signal d'alarme sur les disparités entre les pays riches et les pays pauvres, surtout sur l'accès aux vaccins. Urgence pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est d'augmenter la couverture vaccinale mondiale pour éviter la propagation de nouveaux variants. Les explications, Alexis Bédu.
Il y a aujourd'hui plus de personnes ayant reçu une troisième dose dans les pays riches que de personnes vaccinées dans l'ensemble des pays pauvres. Cette donnée du journal américain le Financial Times est révélatrice de l'immense fossé qui s'est creusé tout au long de cette année, 2021, l'année du vaccin, mais pas pour tout le monde. Une immense partie des 8 780 millions de doses déjà administrées l'ont été dans les pays riches. 91% de vaccinés aux Émirats Arabes Unis, 68% au sein de l'Union Européenne. Dans le même temps, Une large partie des pays africains peinent à trouver des doses. 2% de vaccinés au Niger, au Burkina Faso, c'est encore moins au Tchad et au Burundi. Des dons de vaccins ont été faits par certains pays. Réveil des États-Unis récemment avec la prolifération d'Omicron. Washington a livré à ce jour plus de 335 millions de doses de vaccins anti-Covid à 110 pays émergents et entend accélérer cette distribution. Fin novembre, la Chine promettait 1 milliard de doses de vaccins à l'Afrique sous la forme de dons ou de soutien à la production locale.
Et c'était Alexis Bédu pour RFI. Le vaccin décrit comme game changer devrait très bientôt arriver en Australie. Novavax, un vaccin à base de protéines, donnerait aux Australiens une quatrième option vaccinale. Il utilise une technologie différente des vaccins Pfizer d'AstraZeneca, introduisant une partie du virus dans le système immunitaire. Il ne contient aucun composant vivant du virus. Les essais cliniques ont montré que Novavax est efficace à 90% contre les infections symptomatiques et à 100% contre les maladies modérées et sévères pour le Covid-19, bien que l'efficacité du vaccin contre Omicron ne soit toujours pas claire. Le lieutenant général Sir John Frewen est responsable du groupe de travail australien sur la vaccination. Il a déclaré à Channel 7 qu'il se félicitait de cette nouvelle option. On l'écoute.
Yeah, so they're still going through the final approval process. So we're looking forward to having Novavax in play as well. We don't anticipate that will be before the new year, but we'd look forward to getting it as soon as we can in the new year.
Voilà donc pour Novavax, les régulateurs de la santé aux États-Unis ont autorisé la première pilule contre le Covid-19, un médicament de Pfizer qui peut être pris à la maison pour éviter donc les pires effets du virus. Le médicament, qui s'appelle le Paxlovid, fournirait un moyen plus rapide de traiter les premières infections au Covid-19, bien que les approvisionnements initiaux soient extrêmement limités. Une pilule antivirale de Merck devrait également être autorisée prochainement avec 3 millions de doses déjà commandées par les États-Unis. Le coordinateur du Covid-19 pour la Maison-Blanche, Jeff Zients, a déclaré que les États-Unis avaient commandé des millions d'autres pilules de ces traitements. On l'écoute.
We got good news today with the authorization of Pfizer's antiviral. Merck's pill, if authorized, along with Pfizer's newly authorized pill, add oral treatment options to our nation's medicine cabinet. As soon as emerging science showed the promise of these antivirals, we acted quickly and aggressively to pre-purchase 10 million treatment courses of Pfizer and 3 million courses of Merck.
13h07 au Proche-Orient. L'offensive israélienne sur le nucléaire iranien revient sur le devant de la scène. Le Premier ministre israélien espère recevoir le soutien américain. Il a d'ailleurs reçu le ministre de la Défense de Joe Biden pour en parler. Les explications de Sami Boukhalifa.
Face à Jake Sullivan, le Premier ministre israélien déclare sans détour « Les négociations à Vienne sur le nucléaire iranien ont de profondes répercussions pour la sécurité de l'État hébreu. » Seulement voilà, Naftali Bennett et ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense ont beau multiplier les allers-retours à Washington et les rencontres avec les responsables américains, ils ne parviennent pas à les convaincre de s'aligner sur leur position. Selon l'une des principales chaînes de télévision israélienne, le Premier ministre israélien tente laborieusement depuis trois longue semaine de s'entretenir avec le président américain Joe Biden au sujet de l'Iran. Mais la Maison-Blanche ne répond pas. Israël rejette en bloc les négociations de Vienne entre l'Iran et les grandes puissances. L'État hébreu prône la méthode forte, une offensive militaire contre la République islamique. Engagés dans des pourparlers compliqués avec Téhéran, les grandes puissances préfèrent pour le moment laisser une chance à la diplomatie.
Et c'était Sami Boukhalifa pour RFI. Les procureurs néerlandais ont requis la réclusion à perpétuité pour les trois Russes et un Ukrainien accusé de meurtre pour avoir abattu un avion de ligne au-dessus de l'Ukraine en 2014. Vous vous en souvenez très certainement. Les 298 personnes à bord ont été tuées. Il y avait 38 Australiens parmi ces passagers. Les procureurs affirment que les accusés, qui sont d'ailleurs tous en fuite, ont aidé à fournir un système de missiles que les séparatistes soutenus par la Russie ont par la suite utilisé pour tirer une roquette sur le vol MH17 donc de Malaysia Airlines. Le procureur Tisberger est revenu sur le moment où, c'était le 17 juillet 2014, le contrôle aérien ukrainien a perdu le contrôle du MH17. On l'écoute.
Op dat moment détonneert een warhead van een Buk-raket.
At that moment, a warhead from a Buk missile detonated to the left of the cockpit. Shrapnel and missile parts piercing the left of the cockpit, and the accompanying blast did the rest. The fuselage breaks into multiple parts and plummets down. The passengers of flight MH17 didn't stand a chance.
Voilà donc pour la situation et ce jugement aux Pays-Bas. Les responsables allemands, on appelle aux dirigeants mondiaux de désamorcer la tension croissante avec la Russie et l'OTAN. Cela survient alors que plusieurs membres de l'Union européenne ainsi que la Grande-Bretagne et les États-Unis menacent Moscou de sanctions, je cite, comme jamais auparavant, par crainte que la Russie envisage d'envahir l'Ukraine prochainement. S'exprimant lors d'une conférence de presse, le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Hasselbeur, a déclaré que si de telles sanctions économiques seraient très très mauvaises pour la Russie, fin de citation, elles enverraient un message clair de l'Europe pour revenir à la table des négociations. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui était également présente d'ailleurs, dit qu'il doit y avoir un retour à la table des négociations. On l'écoute.
In recent days, I have repeatedly said how important it is that we return to the negotiating table in the Normandy format, but also that we want to use the opportunity to talk together in the NATO-Russia Council and ensure that we can avert a further escalation, because this major crisis we are in can only be resolved through dialogue.
Direction la Russie, ou la Hongrie, pardon, en cette fin de journal. Katalin Novak, actuelle ministre en charge de la famille, deviendra l'an prochain la présidente du pays. Le premier ministre Viktor Orban a annoncé lui-même sa désignation. Le poste de président ou de présidente du pays est presque sans pouvoir, mais lui offre une tribune à cette ultra-radicale proche du premier ministre Orban, comme nous l'explique Juliette Gerbrand.
Ministre sans portefeuille en charge de la famille depuis un an, Katalin Novak est aussi vice-présidente du Fidesz et chargée des affaires étrangères au sein du parti depuis 2017. Mère de 3 enfants, parfaitement francophone, elle a vécu en France où elle a étudié à l'université de Paris 10 Nanterre, mais aussi aux États-Unis et en Allemagne. Elle succédera à János Áder, président de la République de Hongrie depuis mai 2012. Katalin Novak défend la famille traditionnelle. Dans une vidéo, elle demande aux femmes de ne pas rivaliser avec les hommes. C'est elle qui avait organisé un sommet démographique international en septembre dernier pour promouvoir la natalité et dénoncer l'immigration. En décembre dernier, à Varsovie, lors d'une réunion des partis nationalistes et ultraconservateurs européens, elle avait résumé ainsi les objectifs du parti de Viktor Orban au sein de l'Union européenne, faire en sorte que les personnes nationalistes, pro-liberté, anti-immigration et respectueuses des valeurs familiales traditionnelles soient représentées aussi fortement que possible dans le processus décisionnel européen.
Avec coup d'œil météo à travers le pays pour aujourd'hui, à Perth il fera 35 degrés, Adélaïde 29, Melbourne 21, Hobart 19, Canberra 28, Sydney 26, à Brisbane il fera 32, Cairns 34 et Darwin 35 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Nouveau record d'infection en Nouvelle-Galles du Sud, 5705 cas recensés en Nouvelle-Galles du Sud. Et les masques qui reviennent obligatoires à l'intérieur dans le Victoria. Et on l'a entendu dans ce journal, l'OMS qui tire le signal d'alarme sur le niveau de vaccination mondial. 13h13, courte pause et on retrouve Jean-Noël pour le sport dans quelques instants.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le tennis. Le patron de l'Open d'Australie, Craig Tiley, a déclaré qu'il restait incertain du statut de vaccination de Novak Djokovic, malgré le fait que le numéro 1 mondial veuille jouer dans le tournoi de 2022. Djokovic, je rappelle, a refusé à plusieurs reprises de déclarer son statut vaccinal. Craig Tiley déclare que quelques joueurs et des membres du personnel seront autorisés à entrer dans Melbourne Park sans être vaccinés après avoir obtenu des exemptions médicales. Et il déclare aussi qu'en raison des protocoles de confidentialité, personne ne saura jamais si Djokovic demande ou obtient une exemption médicale, à moins qu'il ne le révèle lui-même. Affaire à suivre. On passe au foot, il y avait 10 matchs de Ligue 1 hier en France. Bilan avec Tom Rossi pour Radio France Internationale.
Encore un but dans les arrêts de jeu pour Paris qui arrache un match nul, un partout à Lorient. Après une prestation très poussive, sans idée, sans génie, sans but de Lionel Messi, mais sans défaite. C'est une habitude cette saison, sans convaincre. Paris a glané de nombreux points en fin de match, sans briller. Paris n'a perdu qu'une fois, Messi n'a marqué qu'une fois aussi. Mais le PSG compte 13 points d'avance sur ses poursuivants. À mi-saison, des chasseurs qui ne visent pas le sommet inaccessible de Paris. Mais le podium, ils sont 4 à se tenir en 2 points. Nice, vainqueur 2-1 face à Lens. Et Marseille, auteur d'un match nul 1 partout face à Reims, sont à égalité derrière Paris. L'OM qui peut encore remercier Payet, sauveur sur pénalty à la 97e minute. Rennes, battu par Monaco, et Montpellier, facile tombeur d'Angers, sont 4e et 5e en embuscade. Alors où est le champion de France? Eh bien le champion de France, Lille, n'est pas si loin et revient bien grâce au meilleur buteur de la Ligue 1, Jonathan David, et ses 12 réalisations. Ce n'est pas le cas de Lyon, toujours englué en deuxième partie de classement après son match nul face à Metz, son 3e de suite. Mauvais résultat sur le terrain, jet de bouteille et bagarre en tribune. Un peu de vacances feront du bien aux Lyonnais comme aux rivaux stéphanois. 5e défaite de suite pour la Lanterne Rouge face à Nantes, battue à domicile Saint-Etienne 1-0 par les Canaries. Et pour la première de Duprat sur le banc des stéphanois.
En Angleterre, la Ligue Cup, les quarts de finale, Tottenham qui a battu West Ham 2-1. Liverpool et Leicester ont fait match nul, 3 buts partout. Chelsea s'est imposé contre Brentford 2-0. Et mardi, Arsenal a écrasé Sunderland 5-1. En Angleterre, toujours avec la Première Ligue qui déclare que les matchs seront maintenus pour le Boxing Day. Explication de Simon Bourtembourg pour RFI.
La nouvelle apparaît comme un cadeau avant l'heure pour tous les amoureux du ballon rond qui craignaient de se voir privés de football pendant les fêtes. L'idée avait pourtant fait son chemin tant la nouvelle vague de Covid-19 frappe les clubs anglais. Depuis le début de la saison, 10 matchs de championnat ont déjà dû être reportés pour des raisons sanitaires. Mais la période du Boxing Day est extrêmement importante sur le plan économique. L'affluence dans les stades affiche un taux record entre 95 et 100% de remplissage. La majorité des 20 clubs de Première Ligue a donc finalement voté pour maintenir le Boxing Day. 3 jours tournée de championnat d'Angleterre reste donc bien au programme entre le 26 décembre et le 3 janvier. Et la politique de report au cas par cas sera poursuivie pour les matchs menacés par des cas de Covid au sein des effectifs. Mais les clubs devront prendre part aux rencontres dès lors qu'ils disposent de 13 joueurs de champ et d'un gardien de but. Les jeunes de moins de 21 ans devront être réquisitionnés pour combler les éventuelles lacunes de l'équipe première. En Angleterre, l'épidémie de Covid n'aura donc pas raison d'une tradition vieille de plus de 150 ans.
En Espagne, le Real de Madrid a battu l'Athletic Bilbao 2-1 et garde la tête du classement. En Italie, les deux premiers, d'abord l'Inter Milan a battu Torino 1-0 et l'AC Milan, deuxième, a battu Empoli 4-2. Cette nouvelle, une Coupe du Monde tous les deux ans et la Coupe d'Afrique en automne. Explication de Marie-Amélie Motte pour RFI.
Président de la FIFA a pour la première fois chiffré les retombées économiques du passage à une Coupe du Monde tous les deux ans. 19 millions de dollars supplémentaires par cycle de 4 ans pour chacune des 211 fédérations membres. Gianni Infantino n'a pas fixé d'échéance à ce projet controversé, notamment à cause des conséquences qu'il pourrait avoir sur les championnats nationaux et sur la santé des joueurs. C'est un projet qui s'inscrit selon lui dans une vaste réflexion. On l'écoute.
La Coupe du Monde de tous les deux ans n'est qu'un élément d'un système d'ensemble que nous avons présenté pour l'avenir du football. Nous ne pouvons pas dire au reste du monde, écoutez, le football est super, le football est mondialisé, donc donnez-nous l'argent et regardez les matchs à la télé. Je comprends que dans certains pays, les fans sont gâtés. Ils ont la Coupe du Monde toutes les semaines parce que les meilleurs joueurs évoluent dans leur championnat. Mais dans d'autres pays, régions et même continents, vous ne voyez pas la Coupe du Monde, vous ne voyez pas les meilleurs joueurs dans toute une vie, dans toute une génération.
Gianni Infantino qui a également avancé l'idée d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en automne.
La Ligue des Champions, et on parle de la Ligue des Champions des Dames avec les quarts de finale. Lyon et Paris à l'affiche en mars de 2022. Les Lyonnaises joueront contre les Allemandes du Bayern de Munich et les Parisiennes contre les Italiennes de la Juve de Turin. Éric Mamrut, RFI.
Et ce sera du lourd pour les deux clubs français engagés en Coupe d'Europe, du lourd corsé pour les Parisiennes qui ont hérité donc du Bayern Munich, demi-finaliste de la dernière édition, du lourd léger pour les Lyonnaises opposées à la Juventus Turin, l'équipe italienne version dame qui dispute les quarts de finale de la compétition pour la première fois de son histoire, mais qui apprend très vite, comme le raconte l'entraîneuse de Lyon, Sonia Bonpastor.
La Juventus, c'est une équipe qu'on connaît bien, puisqu'on les avait déjà affrontés la saison passée, une équipe qui nous avait posé des difficultés. C'est une équipe qui a du talent. Le football féminin italien progresse énormément aussi ces dernières années. Donc voilà, beaucoup de méfiance et il faudra bien étudier cette équipe pour bien préparer le match.
Rendez-vous les 22-23 mars pour les quarts de finale aller avec donc Bayern Munich, Lyon et Juventus de Turin. PSG.
Et puis la CAN aura bien lieu à partir du 9 janvier prochain. C'est qu'a confirmé le président de la CAF, la Confédération africaine de foot, Sarah Loubakouche, RFI.
Pas de nouvelles déconvenues donc pour le pays des Lions Indomptables, écarté de l'organisation lors de la précédente CAN, contraint de reporter l'édition 2021 d'un an. Cette fois, c'est bon, la CAN va bien débuter le 9 janvier. Une annonce faite par le président de la CAF après une rencontre avec Paul Biya, le président du Cameroun. L'organisation de la CAN était depuis plusieurs jours menacée par la pandémie, par la crainte de plus en plus vive du variant Omicron. Après 48 heures de crainte, le verdict est donc tombé par le biais d'un Patrice Motsepe rassurant, qui a insisté sur l'intransigeance du protocole sanitaire.
Nous avons le devoir d'être confiants, de croire en nos capacités en tant qu'Africains à travailler ensemble. Travailler ensemble pour prendre conscience de l'immense responsabilité que nous avons concernant la sécurité sanitaire. Nous nous devons de protéger la vie des spectateurs qui viendront assister au match, celle des invités extérieurs au Cameroun, des visiteurs, mais aussi protéger la vie des joueurs. C'est de notre responsabilité, c'est un engagement non négociable.
La CAN toujours, et les internationaux africains pourront-ils être retenus par leur club européen? Écoutez la réaction de Kaba Diawara, qui est le manager de l'équipe de la Guinée. Il est sur Radio Foot International.
Ça me montre bien qu'ils respectent pas l'Afrique. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Alors, ils sont prompts à prendre des Africains parce que, au départ, ils les payent moins cher. Mais après, quand ils brillent et que ça devient des stars, on a le revers de la médaille encore en disant non, mais il peut pas partir. Mais c'est pas notre faute. Si la FIFA et la CAF, ils s'amusent à déplacer la CAN à chaque fois. Moi, j'ai parlé avec Naby Keita. Il me dit qu'on lui demande de rester jusqu'au 2. Le match contre Chelsea, parce que c'est un gros match pour eux. Mais le 2, nous, on a un match amical avant la CAN. On est déjà en préparation depuis le 26. Donc ok, je comprends qu'il joue en Angleterre qui ne s'arrête pas, mais nous, nos joueurs, on les veut le 26 au soir. S'il arrive que le 3, il aura raté un match amical, il n'en restera plus qu'un. Et s'il joue le 2 qui se blesse, on fait quoi? En plus, lui, il est sujet à blessure. Donc on va discuter avec son club, on va discuter avec Naby, on va voir. Mais ça veut dire que les clubs d'Europe, ils respectent pas l'Afrique, vraiment. Ils auraient jamais fait ça pour un Sud-Américain ou un joueur européen. Honnêtement... Moi, je dis, c'est du foutage de gueule. Ils le savaient, les dates de la CAN, donc ils appuient toujours sur l'Afrique. On a toujours vu ça. On va pas aller très loin, on va pas monter dans les tours, mais il faut arrêter. À un moment donné, les joueurs sont africains, ils sont pas européens. Ils jouent pour leur sélection et ils ont envie de venir. Si tu commences à le bloquer ou lui mettre une pression, il va pas être bon ni en sélection, ni en club. Donc autant tu le libères, tu lui fais confiance, tu lui dis de faire attention et puis tu le laisses aller. Maintenant, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à pas prendre des Africains, c'est tout, voilà. Ils prennent que des Européens et puis voilà.
Et en ce qui concerne les clubs anglais, que font-ils? Écoutez l'analyse de Philippe Auclair, le correspondant de RFI en Angleterre.
En ce sens qu'on attend toujours une réaction officielle de soit de la Première Ligue, soit des clubs qui font, des grands clubs anglais qui font partie de l'ECA. Pour l'instant, absolument aucune réponse positive de ce côté-là, de l'ECA ou des clubs anglais. Mais une autre chose qu'il faut également avoir en compte, c'est le fait que nous avons 40 joueurs actuellement en Première Ligue qui pourraient participer à la CAN. 40, c'est énorme. Et le problème, bien évidemment, qui se pose, c'est vu la situation sanitaire, les reports de matchs, le nombre de cas positifs, il faut quand même savoir que l'Angleterre est un championnat dans lequel un tiers des joueurs ne sont toujours pas vaccinés, pas du tout vaccinés. Donc, il y a un autre problème qui se pose pour la CAN, c'est le fait que il va falloir que les clubs mettent les joueurs à disposition, mais également il va falloir que des joueurs soient tout simplement en état et physiquement capables de pouvoir venir au Cameroun. Et ce n'est absolument pas une évidence.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
L'Australie pourrait bientôt exporter beaucoup plus de lait à l'étranger grâce aux nouvelles technologies.
Oui, voilà, c'est de la technologie qu'on a développée ici en Australie, qui existe nulle part ailleurs, qui pourrait rallonger la vie du lait cru pour exporter en Asie du Sud-Est principalement. Donc, ça pourrait aller directement de la ferme, de la vache, au marché et à l'étranger, ce qui pourrait être assez extraordinaire et une grande opportunité principalement pour les fermiers australiens, parce que en ce moment les fermiers, ils ont 36 heures pour traiter le lait avant que ça soit gâché pour pouvoir l'exporter, le vendre à l'étranger. Donc ça, vraiment, ça a empêché les fermiers de pouvoir le vendre souvent à l'étranger. Mais là, il y a un projet qui s'appelle White Tide et ils devraient pouvoir exporter des grandes quantités de ce lait du nord du Victoria cru en Asie du Sud-Est, où ça pourrait être traité sur place, là-bas, dans les autres pays. Donc, ils disent que ça pourrait vraiment changer énormément les opportunités pour ces fermiers au Victoria, en principe, parce que c'est là que beaucoup du lait de l'Australie est fait. En fait, 70% de l'industrie est au Victoria. Donc, c'est une industrie qui est un secteur qui vaut 13 milliards de dollars. Et on voit 70% au Victoria. Et en fait, un tiers de tout le lait produit au Victoria vient du nord de cet état. Donc, pour eux, ça pourrait faire une grande différence. Et cette technologie, ce qui se passe, c'est que ça arrête la dégradation du lait. Donc, en fait, ça veut dire qu'on peut garder le lait cru pour beaucoup plus longtemps, pour 23 jours, ils disent. Et donc, ce qu'ils pourraient faire, il y a des quantités énormes de plus de 20 000 litres qu'on pourrait mettre directement sur un bateau et l'envoyer dans ces pays où ça serait traité. Parce que quand même, ce lait a une bonne réputation et les gens veulent bien payer pour ça. Donc, ça serait vraiment un gros coup pour ces fermiers ici en Australie et au Victoria en particulier.
Et puis, on vient de vivre un mois avec le plus de ventes de maisons aux enchères. C'est du jamais vu en Australie.
Oui, c'est intéressant parce que d'habitude, cette période-là, avant Noël, les choses commencent à se calmer. Mais là, on voit que plus de 4000 domiciles, des maisons et des appartements ont été vendus aux enchères chaque semaine pendant les 4 dernières semaines. Et on n'a jamais vu ça avant. Donc, en fait, 4756 maisons ont été vendues aux enchères la semaine dernière. C'était la deuxième semaine, la deuxième plus grande de semaine de vente qu'on a jamais vue. La plus grande semaine de vente qu'on a jamais vue, c'était la semaine juste avant, où c'était presque 5000 maisons ou domiciles qui ont été vendus aux enchères. Et on voit la différence avec l'année dernière, quand c'était juste 2300. Donc, c'est beaucoup plus. C'est plus que deux fois plus qu'on vendait aux enchères il y a même un an. Et en tout, l'année de 2021, qui est en train de finir là, c'est maintenant l'année où on a vu le plus de ce genre de vente jamais. Avant ça, c'était en 2017. Alors, c'est intéressant de voir ça juste avant Noël aussi. Et ils pensent que, on ne sait pas très bien pourquoi, mais d'habitude, le marché ne rebondit pas comme ça avant janvier ou début février, après les vacances. Et ce n'est pas juste dans les villes où il y a eu des longs confinements, où on pouvait pas vraiment faire beaucoup, il y avait pas trop de ventes qui se passaient. C'est pas juste à Sydney et Melbourne, même à Brisbane, il y a eu une grande hausse de ces ventes aux enchères. Adélaïde aussi. Par contre, dans d'autres villes comme Perth et aussi Darwin, là, ça a baissé ou c'est resté à peu près la même chose. Et si on regarde plus largement, plus généralement, les prix des maisons, des appartements, oui, c'est vrai qu'ils ont monté pas mal en 2021. Et ils pensent que ça, c'était parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup sur le marché. Il n'y avait pas beaucoup de nouvelles maisons. Il y avait les marchés étaient assez serrés. Mais les analystes pensent que cette hausse des prix, cette monte en flèche des prix va ralentir en 2022 et c'est possible que les prix vont baisser en 2023. Mais bon, ça c'est encore très loin et on sait vraiment pas certainement ce qui va se passer. Mais bon, ils pensent que de toutes les façons, les prix vont se calmer un peu, ce qu'on espère.
Merci Nicolas pour cette analyse de l'économie australienne. À la semaine prochaine.
Oui, merci beaucoup Jean-Noël et joyeux Noël à toi et à tous les auditeurs.
Merci et de bonnes fêtes de fin d'année à vous aussi. Merci à vous.
Merci.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Comme des diables, j'ai un poids sur la gorge et un sourire au visage.
Et c'était Mzaza sous la lune, une chanson que nous avons jouée en tout début d'année. Mzaza, on aime vraiment beaucoup ce groupe avec Pauline Maudit qui sont originaires du Queensland, de Brisbane. Il est 13h43, courte pause et on parle d'école de gastronomie en Australie. Tout un programme tout de suite après ça.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Bonjour, ici Audrey Bourget avec un nouvel épisode d'Atable Kitchen Conversations. Pour ce dernier épisode de l'année, je me suis entretenue avec Stéphane Nguyen qui a fondé The French Cooking Academy, une école de cuisine française en ligne qui est basée en Australie et qui est populaire partout dans le monde. Comme beaucoup de Français, Stéphane Nguyen est venu s'établir en Australie par amour avec sa femme Kate. Et comme beaucoup de Français, il ne savait pas vraiment à quoi s'attendre.
Et je m'étais dit, oh, l'Australie, la seule image que j'avais, c'était Crocodile Dundee quand on avait vu le film. Je me dis, oh, mais ça doit être bien, ça, l'Australie, il y a des koalas, les crocodiles, ce genre de trucs, le bush, etc. Donc, il m'a dit, oh non, j'habite à Melbourne, elle m'a dit, c'est pas exactement pareil. Et tout, je disais, wow. On va voir. Et c'est en fait, c'est comme ça que je suis arrivé en Australie. Et où j'ai eu un peu un choc parce que je suis arrivé, c'était comme l'Europe, quoi. Il y avait des saisons à Melbourne, c'était, il faisait froid. J'ai dit, oui, c'est où les palmiers, les trucs. Donc, c'est ça qui m'a amené en Australie, c'est du fait que je suis marié à une Australienne, en fait.
L'Australie l'a surpris et lui a plu tout de suite. Mais rapidement, il a commencé à s'ennuyer du bœuf bourguignon, des croissants et de la quiche. Technicien informatique de formation, le Parisien d'origine a alors décidé de passer tout son temps libre à étudier la cuisine française.
Vu que j'étais technicien, on est plus dans les choses, il faut apprendre vraiment avec une façon d'apprendre bien spécifique, comme à l'école, quoi. Je me suis dit, ce que je vais faire, je vais acheter un livre. En France, on a plein de livres sur... c'était un livre d'une école de cuisine française. C'est le livre classique qu'on vous donne quand vous allez à l'école hôtelière en France. Et je me suis dit, je vais prendre ce livre-là. Et je vais suivre les leçons et je vais faire comme un autodidacte. Je vais m'apprendre la cuisine leçon par leçon. Et quand j'ai commencé à faire ça, vu que je suis technicien, que je m'y connais un peu, etc., il y avait YouTube qui était un peu en vogue. Je me suis dit, ce serait sympa parce que beaucoup de gens me demandent, ils connaissent pas trop comme on fait la bouffe française, mais comment la vraie façon de le faire, la version française. Et vu que je parle anglais, mais tiens, je pourrais peut-être m'enregistrer vraiment pour le fun. Hein. Pendant que j'apprends, donc j'ai pris mon iPhone et j'ai commencé en fait à créer une chaîne YouTube. Il y a de ça plus de 5 ou 6 ans, où le nom est arrivé, le French Cooking Academy. Je me dis, tiens, je vais appeler ça le French Cooking Academy. Et j'ai commencé à me filmer épisode par épisode. Et au début, c'était vraiment que pour le fun. Et c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens où ça a plu. On a commencé à avoir une audience grandissante rapidement. Et au bout de même pas un an ou un peu plus, on avait déjà plus de 100 000 abonnés. Et les chiffres ont commencé à augmenter.
D'abord, de simples vidéos YouTube pour le plaisir de French Cooking Academy s'est transformé en école en ligne en 2019, alors que Stéphane et Kate étaient en France.
Et je me suis dit, tiens, on va faire comme Gabriel Gatté en France. On va faire un tour de France. On va faire toutes les régions de la France et je vais filmer, je vais faire des recettes comme ça pour la chaîne, pour YouTube en fait. Et c'est ma femme qui a eu l'idée quand on était là-haut. Elle disait, bon, vu qu'on a du temps, est-ce qu'on pourrait pas faire autre chose que juste faire des recettes? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de mieux, etc. Et l'idée de l'école est venue d'elle en fait. Quand on était en France, on s'est dit, ouais, peut-être qu'on devrait faire une école en ligne comme ça, en proposant vraiment une formation, des cours. Et c'est là que l'idée a germé, en fait. Et là, c'était fou parce qu'on a décidé d'ouvrir l'école et de créer notre premier cours, en fait, qui s'appelle en anglais Get Started with French Cooking. Donc, c'est pour vraiment démarrer. C'est un programme pour débutants qui vous apprend tout le béaba de la cuisine française, en partant de zéro jusqu'à un niveau intermédiaire. Mais on avait fait ça alors qu'on louait des Airbnb tout autour de la France, quoi. Et on savait pas quel type de matériel. On avait juste une caméra. J'avais pas tous les équipements, les poêles, les machines. Donc on a commencé à acheter des poêles, des casseroles. Moi, je me baladais avec une valise pleine de produits pour la cuisine, etc. Et c'était vraiment c'était mal organisé, mais c'était marrant quand même. C'était un peu fou en fait qu'on a commencé à faire ça. Et c'est à Lyon où on a fini le voyage, où on s'est vraiment installé dans un grand studio où on avait loué avec une belle cuisine, où on a filmé la plupart du cours, etc. Où j'ai acheté tout le matériel sur place, des lampes, etc. J'ai recréé un studio. Et c'est là qu'on a commencé à lancer le premier cours. C'était en fait le tout début de l'école.
Stéphane est maintenant de retour en Australie, dans le Victoria. Il a plus de 1500 étudiants, en grande partie aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde, et un demi-million de fans sur YouTube. Il offre actuellement 4 cours allant des techniques de base jusqu'à la pâtisserie.
Donc le premier cours, hein, Get Started with French Cooking, c'est pour vous apprendre vraiment le béaba de la cuisine. Donc, pour quelqu'un qui connaît rien en cuisine, vous achetez le cours en ligne et vous suivez le cours du début jusqu'à la fin et ça va couvrir un peu toutes les techniques de cuisson, comment s'organiser, la mise en place, etc., comment couper les légumes, comment faire des recettes, un peu de pâtisserie aussi. Il y a un cours de pâtisserie qui est inclus dedans. Donc, ça, c'est un des cours qui vous propose ce programme. On a un autre cours qui est juste sur les desserts. Un qu'on a fait récemment qui est sur un des plus grands cours des sauces françaises, qui s'est fait en ligne. Je crois que c'est un des cours les plus... On a 40 sauces classiques que vous apprenez, plus toutes les techniques avant qui découlent. Mais c'est un cours qui est plus réservé aux gens qui ont de l'expérience, des gens en cuisine. Et là, on est en train de travailler sur un nouveau cours sur la charcuterie.
Stéphane veut rendre la cuisine française accessible à tous, donc il travaille avec des ingrédients qu'on trouve facilement.
Tout ce que je fais déjà sur YouTube et aussi dans l'école, c'est vraiment en utilisant des produits que vous trouverez à votre supermarché, au boucher du coin. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Je n'utilise jamais des sortes de volailles introuvables. Il n'y a pas de faisan, il n'y a pas de foie gras. Non, c'est vraiment que du sel, du poivre, des poireaux, des carottes, de la bois. Il faut du beurre et de la crème. Hein. Ça, du vin, du beurre, de la crème, bon, déjà vous êtes pas mal. Après, on s'en sort bien.
Et son talent pour enseigner la cuisine française a un réel impact sur ses étudiants.
Le premier cours, on a des histoires. Vu que c'est un cours pour les gens qui ont toujours voulu commencer ou découvrir la cuisine française, en fait, c'est des gens qui commencent, comme je dis, quand on dit vraiment, c'est pour débutants. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a aucune notion de la cuisine française, qui ne sait même pas ce que c'est, on peut totalement commencer le cours et arriver à un niveau donc qui est beaucoup plus haut. Et ce qui se passe, c'est que les gens, la plupart des commentaires, c'est sur ce cours-là, c'est la transformation en fait des gens qui ne savaient pas du tout cuisiner, qui ne connaissaient rien à rien et qui ont des familles et maintenant ils cuisinent avec leurs enfants. Ça va être des parents qui sont séparés, ils ont leurs filles qui visitent. Ouais, j'aurais cuisiné un truc, j'aurais jamais cru que je pouvais faire ça. Ça a transformé ma vie. On a plein de commentaires comme ça. Des gens qui ont 80 ans qui se remettent à la cuisine française. Ah oui, j'ai travaillé toute ma vie, je voulais recommencer la cuisine française. Ils s'y remettent, ils ont redécouvert la passion de tout ce qui est cuisine et des gens qui voulaient s'améliorer. Et c'est beaucoup des histoires familiales en fait. Comment ça reconnecte les familles, le fait de pouvoir faire à manger.
Pour en connaître plus sur The French Cooking Academy, rendez-vous sur la site web thefrenchcookingacademy.com.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
C'était « Veux-tu » de Edgar Sekloka qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de décembre. Sélection musicale que vous pouvez retrouver sur notre site internet ou sur notre compte Spotify. Il est presque 13h57, on va faire un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Dans l'actualité, le titre principal, c'est la hausse du nombre de cas de Covid et de cas de Omicron en Australie. Plus de 5700 cas en Nouvelle-Galles du Sud, plus de 2000 cas dans le Victoria. Victoria d'ailleurs, où le masque redeviendra obligatoire à partir de ce soir, 23h59. Et il y a aussi, il faut noter que dans le monde, l'Israël qui hausse le ton sur le nucléaire iranien. On va faire une petite pause musicale avant la fin de ce programme. Je vous joue Dingue de Dany. Voilà, c'était un petit bout de Dingue, cette chanson de Dany. Elle est vraiment, on peut reconnaître la voix de Dany après, parmi n'importe quelle chanteuse dans le monde. 13h59, on va faire donc la fin de ce programme. Je vous rappelle, le prochain rendez-vous en français, c'est samedi à 13h. Nous sommes là le jour de Noël avec Marianne Murat qui fera l'émission pour nous. Et dimanche à 13h également, je vous rappelle notre site internet également, sbs.com.au/french. Quant à moi, je vous souhaite un bon après-midi à tous, passez des bonnes fêtes en tout cas. Et puis un bon appétit si vous êtes toujours à table. À samedi.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.